Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir une voix libre, courageuse et singulière du paysage médiatique français. Maddy Saïdi, hein, française venue d'ailleurs, hein, comme le dit si bien le titre de son livre aux éditions Stock, hein, j'en profite pour le rappeler. Donc, née au Sénégal, profondément attachée à la France, elle a été attachée parlementaire sous Nicolas Sarkozy avant de devenir une plume et une voix sans filtre sur CNews et Sud Radio. Dans un pays qui traverse en ce printemps 2026 des débats parfois violents sur son identité, son modèle d'intégration, sa sécurité et son avenir, elle incarne donc cette double culture hein, franco-sénégalaise qui pourrait être un atout. Ou qui vous oblige, dit-elle souvent, à une lucidité parfois inconfortable. Aujourd'hui, nous allons parler sans tabou, sans langue de bois et sans angélisme, immigration, insécurité des femmes dans l'espace public, délitement du civisme, évolution de l'islam de France, responsabilité des cultures d'origine, normalisation du Rassemblement national, relations avec l'Afrique, mais aussi espoir et fierté retrouvée. Et bien, Maddy Saïdi, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci de m'avoir invité.
Alors, comme je le disais, vous êtes une voix régulière hein, sur CNews et Sud Radio, entre autres. Auteur, comme je l'ai dit, de française, mais je le rappelle quand même, ça fait du bien de le rappeler, venu d'ailleurs aux éditions Stock. Donc, en ce printemps 2026, avec les débats qui agitent le pays, diriez-vous que votre double culture franco-sénégalaise reste un atout? Ou qu'elle vous oblige parfois à une lucidité plus inconfortable.
Alors, juste une petite précision. Il se trouve que je suis née en France. Je suis née à Paris.
Mm-hmm.
Et j'ai grandi en France. Et c'est juste au moment du lycée que je suis allée au Sénégal. Parce que vous aviez dit que j'étais née au Sénégal. Je suis bien née en France. Mais je suis lucide et je connais mon histoire. Je sais bien que l'histoire de ma famille commence de l'autre côté de la Méditerranée. C'est en cela que j'ai nommé mon livre, titré mon livre... Française venue d'ailleurs, puisque l'histoire de ma famille commence ailleurs. Alors, je dois dire que moi, ma double culture a toujours été d'abord un symbole de fierté, puisque j'ai la chance de pouvoir parler à deux côtés du monde, si je peux dire ça comme ça, le monde francophone, grâce à la France où je suis née, et l'Afrique, en tout cas en particulier le Sénégal, qui est le pays de mes parents. Moi, ça a toujours été un vrai signe de fierté, mais aussi une vraie richesse. Parce que si vous voulez, moi je peux vous parler aussi bien de littérature française dont je suis passionnée, mais de la même manière, je peux parler de littérature négro-africaine parce que je suis aussi passionnée de Senghor, de tous ces illustres africains qui ont fait en tout cas une partie de notre histoire contemporaine.
Et je le confirme puisque j'ai tendance à vous écouter régulièrement.
Voilà, donc moi c'est vraiment, la double culture est vraiment une richesse et même dans mes relations humaines, on apprend des choses en ayant vécu en Afrique, en ayant cette culture. J'ai aussi peut-être des traits de caractère qui me viennent de cette culture, l'empathie, la capacité à entendre l'autre, la capacité aussi d'adaptation, puisque j'ai eu la chance de vivre au Sénégal. Et vous pouvez vivre de manière très aisée. À côté de vous, vous avez des gens en situation parfois précaire. Et il faut apprendre à vivre avec eux, les comprendre, et parfois même faire nation avec eux. Et moi, je dois dire que je suis très fière de porter ces deux cultures haut et fort. Comme j'ai pour habitude de le dire, on ne choisit pas entre son père et sa mère. Donc, le message est dit, la France comme le Sénégal, ce sont les pays qui sont les miens.
Et vous avez été attaché parlementaire sous Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui en 2026 à parler sans filtre sur les plateaux, quitte à déplaire dans certains milieux?
Alors, il faut dire qu'effectivement, j'étais attaché parlementaire sous Sarkozy. J'ai même été porte-parole du mouvement national des jeunes de Nicolas Sarkozy.
Exactement.
Donc, j'ai un rapport à la parole un petit peu particulier, mais je crois que c'est aussi mon trait de caractère. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de foncièrement honnête, et je crois qu'on peut tout se dire en respectant évidemment ses interlocuteurs, et je crois qu'on doit aussi aux Français, on a un devoir de vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et moi, j'ai pas de sujet tabou, on peut ne pas être d'accord, mais on aura eu le mérite de discuter ensemble.
C'est ça,
et
d'échanger.
J'ai été pendant longtemps militante politique sur le terrain, et puis je me suis passionnée par la communication, cette capacité, cet art de faire passer des idées, de participer au changement de la société. Et je pense que c'est, à mon modeste niveau, c'est aussi ce à quoi je participe, faire passer des idées. Et j'ai toujours l'honnêteté de parler vraiment à cœur ouvert, la règle étant le respect des uns et des autres.
Bien sûr.
Voilà.
Et en septembre 2025, vous aviez déclaré à propos du meurtre d'une octogénaire par un Afghan, hein, on ne peut pas continuer d'accueillir des gens avec des cultures aussi différentes. Donc en mai 2026, on est même en juin maintenant, comme je suis transparent, on enregistre l'émission. Donc avec les nouvelles règles, Adi Saïdi, d'expulsion et les tensions persistantes, quel bilan faites-vous de la politique migratoire actuelle et que faut-il changer concrètement ?
Alors, je veux dire que d'abord, l'immigration, c'est un drame. Il faut le savoir, c'est un drame. Les gens ne viennent pas forcément de gaieté de cœur, en dehors de l'immigration d'étudiants qui viennent pour se former, en dehors de personnes qui viennent vraiment avec un bagage intellectuel, qui viennent pour travailler parce qu'ils ont une mission, ou parfois, depuis l'autre côté de la Méditerranée, ils arrivent à avoir un job, donc ils viennent. L'immigration, c'est toujours d'abord une histoire qui est foncièrement difficile pour ceux qui partent, parce que c'est très dur de partir. Partir, quitter sa terre, quitter ses origines, quitter sa famille, oui. Partir pour
choix
l'inconnu.
Compliqué.
Voilà, c'est un choix très compliqué. Donc, c'est toujours un drame, l'immigration. Après, il y a aussi une réalité. Il y a la réalité du monde d'aujourd'hui. L'immigration d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est pas celui des années 70. C'est pas du tout l'époque à laquelle mon papa a pu venir en France. Il est venu bien avant les années 70. Néanmoins, c'était une autre époque. Aujourd'hui, en France, on a de vrais problèmes, notamment d'intégration. On n'a plus les moyens d'accueillir les gens comme on les accueillait. Et c'est terrible parce que quand vous dites ça, eh bien, ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée se disent « Ah ben, c'est facile à dire parce que toi, tu y es. » Oui, j'y suis, mais la vérité, c'est que d'abord, je n'ai pas choisi d'y être, j'y suis. Et moi, j'ai eu la chance de naître dans ce pays, donc la question d'intégration ne se pose pas. Ce pays étant le mien, je le connais, il n'y a pas de problème. Et de vouloir accueillir des gens comme on les accueille en France, pour terminer sur des trottoirs, pour terminer dans des tentes, pour terminer avec un parcours tellement difficile qu'eux n'ont pas imaginé, parce que de l'autre côté de la Méditerranée, les gens pensent qu'ici, c'est l'Eldorado. En réalité, il y a bien longtemps que la France n'est plus l'Eldorado de personne, même des Français eux-mêmes, ce n'est plus leur Eldorado. Et je crois qu'il faut avoir cette parole juste, sincère, de dire que venir en tant qu'immigré, ne pensez pas que ça va être facile. Après, il y a aussi la responsabilité des pays d'origine.
Voilà.
Qu'on cite beaucoup moins. Je trouve que c'est très facile de dire ah ben les Français, ils ne sont pas sympas, ils ne veulent pas nous accueillir. Mais il y a aussi des pays d'origine. Pourquoi les gens partent ? Parce que chez eux, ils n'ont pas de perspective d'avenir. Alors qu'en réalité, quand on regarde l'argent, notamment de l'aide au développement, mais même les ressources locales, si les présidents étaient plus honnêtes, avec plus de conviction, avec une vraie vision pour leur jeunesse, peut-être que les jeunes ne se diraient pas « je m'en fous, je veux prendre la pirogue au péril de ma vie ». Donc il y a ces deux responsabilités-là. Donc celle, évidemment, de la France qui ouvre ses frontières à tout va et qui ne contrôle rien. D'ailleurs, la politique d'immigration du gouvernement actuel, elle est très compliquée, parce qu'en réalité, je pense qu'ils n'ont pas conscience de la réalité de l'immigration, pour l'immigré lui-même, mais aussi pour les Français, qui sont amenés à cohabiter avec des gens dont la culture est très différente. Et quand je parlais de l'Afghan, c'est que les Afghans ont une culture... pour moi, il n'y a pas de culture. Les cultures se valent. Mm-hmm. Néanmoins, les cultures sont très différentes les uns des autres. Ils ont un rapport à la femme qui est très différent. Ils ont une culture qui est très différente. Et c'est en cela que je disais que c'est très compliqué de recevoir des gens comme ça sans avoir fait un parcours d'intégration, sans qu'ils comprennent comment on vit ensemble. En France, il y a des règles, il faut les respecter. Qu'une femme, ça se respecte. Et tant qu'on ne sera pas capable de dire la vérité à ceux qu'on accueille, eh ben on sera toujours dans la panade dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec les questions d'immigration.
Je crois que le message est clair et bien passé. Juste, Madi Saïdi, une petite pause, un petit message pour les auditeurs.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr.
Et
podcast.rc.fr.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, ou en tout cas, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur soutenir.rc.fr ou nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Madi Saïdi, les Françaises se disent de plus en plus en insécurité, hein, les Françaises, hein, ai-je bien dit, dans l'espace public. Vous avez évoqué ce sujet encore récemment. Quelles sont, selon vous, les causes profondes de cette insécurité et comment la combattre sans tabou ?
Je crois que la première cause, c'est une forme de laxisme en France. On a tellement laissé faire que les gens n'ont plus peur d'agresser parce qu'ils savent qu'au mieux, ils prennent un rappel à l'ordre. Et parfois, ils prennent rien, ils font quelques heures de garde à vue et rentrent chez eux. Donc, je crois que c'est aussi une question culturelle. On doit changer notre manière d'appréhender les relations dans l'espace public. Ça, il faut incontestablement les changer. Et il faut aussi, peut-être, éduquer davantage les Français de manière globale, parce que pour beaucoup, même quand ils viennent d'ailleurs, ils sont devenus Français, ou d'ailleurs, leurs parents viennent d'ailleurs, mais étant nés en France, ils sont Français. Et ben, c'est important aussi qu'on puisse peut-être dans nos écoles parler plus souvent de la question de la violence, le respect des femmes. Ça, on en parle de moins en moins, et puis peut-être que...
Voire plus du tout.
Plus du tout, oui, absolument. Et ça, c'est hyper important. Moi, je crois qu'aujourd'hui, toute la société est dévoyée sur la question du respect. Mm-hmm. Moi, je sais que quand j'étais gamine, ce qu'on respectait, c'était le maître d'école. Le maître d'école, il avait toujours raison, on ne pouvait rien dire. Il y avait un respect inouï parce qu'il y avait une transmission. Le policier, le gendarme, il y avait non seulement la peur du gendarme, mais il y avait aussi le respect de l'uniforme. On les adorait. Moi, je me souviens qu'à l'école, on avait des policiers, en tout cas, qui nous faisaient traverser. Eh ben, on venait, on leur faisait la bise. On était super contente, on était super contente d'être encadrée, on se sentait en sécurité. Donc je crois qu'il y a aussi, on a perdu beaucoup aussi de nos valeurs, ce qui font qu'au nom d'une espèce de société libertaire, on laisse chacun faire ce qu'il veut, et malheureusement, il n'y a pas de liberté absolue. Donc il faut qu'à un moment, on ait conscience des enjeux de sécurité et qu'on prenne des mesures fortes pour éradiquer ce fléau qui est de plus en plus grave. Aujourd'hui, quand on est une femme, sortir le soir, c'est compliqué.
C'est
hyper compliqué. Ah oui, absolument.
C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est... Bon, vous doutez qu'on a des témoignages sur Radio Courtoisie de plusieurs collectifs qui, voilà, et de femmes donc, qui n'en peuvent plus.
Ouais. Bien sûr, et puis je crois qu'il faut aussi apprendre, il faut aussi qu'on éduque nos filles autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes, beaucoup ont la peur au ventre. Il faut leur apprendre à être des guerrières. C'est terrible, c'est facile à dire comme ça, mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Il faut apprendre à se défendre, il faut apprendre à ne pas baisser la tête. Il faut apprendre à lever la tête et à affronter des choses. Mmh. Parce qu'en réalité, ces jeunes qui agressent, ou ces moins jeunes, ce sont souvent des lâches. Ce sont des lâches. Ils sentent que la femme a peur, donc ils y vont. Mais s'ils se retrouvaient face à une femme qui a un tempérament, qui a du caractère, qui lève la tête et qui leur dit « écoute, t'es gentil, tu t'en vas », eh ben, ça serait autre chose. Donc on doit aussi éduquer nos filles autrement et éduquer aussi nos garçons autrement, en leur apprenant aussi ce qu'est le respect de la femme.
Et vous parlez aussi souvent d'une société en perte totale de civisme. Avec les violences urbaines qui touchent aussi les villes moyennes, hein, où situez-vous les responsabilités en parents, école, justice ou culture d'origine ?
Non, moi je pense honnêtement que ce sont des responsabilités multiples. Pas toujours culture d'origine, d'ailleurs pour preuve, quand ces gens-là vont dans leur pays d'origine, eh ben, ils ne bougent pas, parce qu'ils savent que derrière il y a un pouvoir, il y a une autorité et qu'ils prennent cher. Donc moi, la première responsabilité pour moi, c'est les parents. On aura beau dire ce qu'on veut, l'école a bon dos, et on se dit souvent, oui, mais l'école. On confond l'école, son rôle, c'est d'éduquer les enfants, en tout cas de les instruire. C'est l'instruction civique et c'est pas l'éducation. L'éducation, c'est le rôle des parents. Donc les parents ont une vraie responsabilité quant à expliquer à leurs enfants qu'un bien public, ça se respecte. On contribue tous à l'impôt, donc on est tous propriétaires, entre guillemets, de toutes ces infrastructures et qu'il faut les respecter. Il faut apprendre à ces enfants à respecter l'autorité. Le policier est là pour notre sécurité, il n'est pas là pour autre chose. Voilà, donc les parents ont une vraie responsabilité. Et puis pourtant, ces parents-là, on ne peut pas tout mettre sur le compte de l'immigration, parce que ces parents-là, il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a même plus, il y avait aussi des parents issus d'immigration. Comment ils faisaient pour tenir leurs enfants ? On n'a pas le même cas qu'aujourd'hui.
Et pourquoi, aujourd'hui, pourquoi je d'après pense que vous, les parents ils sont dépassés comme
Je pense qu'ils sont devenus des missionnaires. Les parents sont devenus un petit peu des missionnaires. Ils sont de plus en plus jeunes. La perte de valeur, elle est en Occident, mais aussi ailleurs aussi. Donc, c'est des parents qui sont devenus négligents. Aujourd'hui, on est dans une société de l'enfant roi. Quand votre gamin, on n'éduque pas un gamin à 15 ans. À 15 ans, c'est trop tard. Et quand il fait des bêtises à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, il faut être capable de lui dire, eh ben non, c'est pas comme ça, la règle, c'est celle-là. Mais si on reste en disant, ah, mais c'est pas grave, il est petit, c'est pas grave, on a cette culture-là. Voilà, et puis on a aussi, les politiques ont aussi nos responsabilités.
Un laxisme, donc.
Il y a un laxisme, évidemment, des politiques. Il y a aussi cette propension de certains politiques à faire une espèce d'assignation sociale en disant « Non, mais vous savez, les pauvres, ils sont issus d'immigration. Donc, vous savez, dans les quartiers, il faut arrêter de mentir. » Et je trouve que même c'est leur manquer de respect. Parce qu'il y a plein de gens issus de l'immigration qui sont sérieux, qui travaillent, qui font des études, qui respectent la loi, qui sont du côté de la loi, qui portent même parfois la loi en étant soit magistrat ou autre. Il y en a plein. Donc il ne faut pas leur trouver d'excuses. Les parents, c'est la première responsabilité. La seconde, c'est les politiques qui portent des sujets qui, à mon avis, sont pas à la hauteur et sont pas capables de prendre, du point de vue légal, les dispositions. Aujourd'hui, un gamin, aujourd'hui, on continue à régir les jeunes sur l'ordonnance de 45. Un gamin de 13 ans en 1945, c'est pas un gamin de 13 ans aujourd'hui.
Exactement.
D'ailleurs, la délinquance est de plus en plus jeune. Donc, à un moment, il va falloir réformer les textes et il va falloir assumer qu'on est dans une société de plus en plus violente. En plus, les jeunes sont de plus en plus jeunes quand ils font recours à la violence. Et que si on veut continuer à vivre ensemble de manière correcte, eh ben, il va falloir mettre des règles que chacun respecte pour qu'on puisse continuer à faire nation ensemble.
Et le 17 mai 2026, vous avez déclaré sur CNews que le parti RN s'est normalisé tant dans ses propositions que dans son implantation, n'est-ce pas ? Y compris en banlieue. Est-ce une bonne nouvelle pour la droite française, selon vous ? Et la droite classique doit-elle s'en inspirer ou s'en distinguer ?
Alors, le problème de la droite classique, c'est qu'elle s'est mis une balle dans le pied, elle s'est tuée elle-même. Donc là, elle s'est éloignée le plus possible de ses valeurs. Quand il y avait des enjeux politiques électoraux importants, au lieu de se battre pour ses valeurs, les défendre, les porter haut, elles ont préféré faire parfois des alliances, notamment avec le centre, pour pouvoir garder sa petite place. C'est malheureusement le problème des politiques. Et pour en revenir au RN, oui, le RN a changé. Mmh. Il a changé. Il a changé d'abord dans sa même présentation, ce qu'il incarne quand on les voit. Les militants RN des années 90 sont pas ceux d'aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, ils sont presque propres sur eux, bon gendre. Donc c'est, déjà, ça a changé. Je trouve qu'au niveau des sujets aussi, ça a changé. À l'époque du papa, quand c'était le FN, il était presque omnibulé par la question de l'immigration. Même si l'immigration continue à être un sujet important dans ce pays. Aujourd'hui, je trouve qu'ils se sont adoucis, notamment sur les sujets, et même dans leur manière de faire la politique, ils se sont ouverts. D'ailleurs, on voit bien que quand c'est devenu le RN, Marine Le Pen a viré tous ceux qui portaient des idées, qui pouvaient rappeler l'ancien temps, et leur desservir. Donc ça a changé, ils se sont aussi ouverts. Aujourd'hui, moi, je suis très surprise de voir au RN des gens qui, par exemple, me ressemblent, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de Maghrébins qui y sont aussi. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs pour aller le plus largement possible. Et ils les investissent en plus. Et ça, c'est pas rien. Parce que pendant longtemps, le Parti Socialiste avait cette espèce de monopole de rapport à la diversité avec une assignation sociale. Parce que la vérité, c'est qu'on aime bien l'immigration, mais quand elle reste chez elle et quand elle vote pour nous. En revanche, quand il s'agit de les mettre avec leurs enfants à l'école, là, la gentrification, ça marche.
Oui, voilà.
Ils les amènent ailleurs parce qu'il ne faut pas les mélanger. Et pendant longtemps, ça a été ça, et avec un rejet des idées même de droite, voire d'extrême droite. Et pendant longtemps, donc, ils n'étaient pas investis. Il suffit de regarder le Bureau national de la LFI. C'est les premiers à brandir le drapeau de l'immigration et être les pourfendeurs des politiques migratoires. Mais regardez-les. Dans leur bureau, il n'y a personne qui ressemble à autre chose qu'à eux-mêmes. Parce que s'ils sont si ouverts, pourquoi ils ne prennent pas des gens d'origine étrangère, des gens qui ont un parcours, une histoire ailleurs ?
C'est vraiment,
c'est uniforme chez eux. C'est uniforme. Et je crois que le RN a réussi, par exemple, à s'ouvrir de ce côté-là, à investir des gens différents, de parcours sociaux différents, des gens de milieux sociaux très différents, des gens issus de cultures différentes. Et il y en a de plus en plus chez eux, et tout est à leur honneur. S'ils arrivent à continuer dans ce sens-là, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Et puis je crois qu'il y a aussi une prise de conscience de la réalité politique. Ils ont une prise de conscience, ils savent que maintenant on ne peut pas faire un programme uniquement sur l'immigration. Il y a plein de sujets qui intéressent les Français. Et quand on parle en français, on parle aux Français, à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur histoire, leur milieu social. Ce qui fait qu'ils parlent d'ailleurs, je trouve qu'ils parlent très bien aux couches de la société, vraiment les bas revenus, les gens de province. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas que les quartiers en France. Évidemment, il y a des quartiers. C'est franchement pas les plus démunis quand on regarde la politique de la ville, les millions d'euros. On met beaucoup d'argent et malheureusement, je pense qu'on ne les utilise pas comme il faudrait l'utiliser. Parce que les jeunes de banlieue, leur ambition, c'est pas seulement d'avoir un terrain de foot, avoir une MJC et faire des concerts de hip-hop. Ils ont le droit aussi d'avoir des ambitions beaucoup plus grandes. Et malheureusement, depuis toujours, l'argent va vers ce genre de projet-là. Ils ont des transports, ils peuvent aller à Paris, il y a beaucoup de choses. Alors que le jeune qui est dans le fin fond de la Nièvre, il n'a pas de transport, il n'a pas de permis, il ne bouge pas. Il n'y a pas de boulot.
C'est pas la même,
socialement,
c'est, pas la même, hein,
c'est très compliqué. Mm. Ils n'ont souvent pas de vie culturelle. C'est pour ça que je dis que chacun a son problème, les problèmes sont différents, mais ils en ont tous. Et il faudrait saupoudrer un peu partout et peut-être avoir un autre regard sur l'immigration, sur l'emploi. Il faut arrêter de regarder les gens comme des pauvres gens, il faut les regarder comme des gens, comme des Français à part entière, et qui doivent participer, quoi qu'il arrive, aux efforts de la nation. On ne peut pas être en France en se disant français et de se dire, eh ben moi je m'en fous de ce pays, je ne veux rien faire, et d'abord c'est pas chez moi, et d'abord il y a des aides sociales qui vont faire que je vais continuer à vivre, et en plus de toute manière on ne m'aime pas. Et d'ailleurs je dis toujours aux gamins, arrêtez de vivre dans l'œil de l'autre. Moi je sais très bien d'où je viens. Je sais très bien que quand on me regarde, vous et moi, on n'a pas le même bronzage. Mm-hmm. Mais ce n'est pas grave, c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait peut-être qu'on puisse échanger ensemble, je vous apporte quelque chose, vous m'apportez quelque chose. Mais je leur dis, arrêtez de vivre dans le regard de l'autre. Mm-hmm. Si vous êtes convaincu que vous êtes français, vous êtes français. Mm-hmm. Assumez-le. Et ce n'est pas parce que votre voisin vous dit, ah ben t'es pas français, que vous ne l'êtes pas. Et il faut assumer ça. Parce qu'en fait, moi, je crois que ces gamins sont pris entre l'étau d'une espèce de schizophrénie identitaire. Entre en France, eh ben non, mais on est né en France, on a grandi ici. Mais non, mais on est d'autres pays. Et quand ils vont dans leur pays d'origine, eh ben on les regarde comme étant des étrangers. On les nomme autrement. Donc ils sont entre les deux et c'est là où c'est important. C'est là où le rôle des parents est important. C'est de transmettre, la transmission. Moi, j'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont transmis mon histoire, ma culture, mes aïeux, ce qu'on a pu faire dans l'histoire du Sénégal, comment on s'est construit. Et j'en ai toujours été très fière. Et donc, je connais mon histoire. Et de la même manière, l'école m'a transmis l'histoire de France que je connais par cœur et que j'endosse aussi. Mais quand on ne connaît ni l'histoire de France, ni l'histoire de son pays d'origine, eh ben on est tout simplement déraciné. C'est très problématique.
Malheureusement, ça passe très vite. En tant que Française d'origine sénégalaise et issue d'une culture musulmane,
oui.
Comment voyez-vous l'évolution de l'islam de France en 2026 et faut-il aller plus loin dans la lutte contre l'entrisme et le séparatisme, pardon, comme le propose le gouvernement?
Alors, d'abord, c'est pas l'islam qui a mué ou qui a changé. C'est ceux qui se prétendent de l'islam qui ont changé. En France, il y a toujours eu des musulmans, ça date pas d'aujourd'hui. Il y en a toujours eu et les gens ont toujours cohabité ensemble, comme le permet la loi. En réalité, la loi sur la laïcité, certains s'en prévalent pour revendiquer des libertés, mais la vérité de la loi de la laïcité, même si à l'origine, elle a été imposée parce qu'il fallait affaiblir le pouvoir de l'Église. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est de nous permettre d'avoir une expression religieuse. Toutes les religions ont le droit à la parole en France dans le respect des lois de la République. Ouais. Donc ce n'est pas l'islam qui a changé. C'est les gens qui se revendiquent de l'islam qui a changé. Et moi, je suis convaincue que si on avait été plus intelligent politiquement parlant, on continuerait à vivre ensemble. Moi, j'ai la chance de venir d'un pays qui est le Sénégal. Et le Sénégal, pour moi, c'est mon modèle d'intégration religieuse. C'est un des rares pays où il y a encore le dialogue interreligieux. C'est un pays où on est mélangé. Les catholiques respectent les musulmans les respectent. On est souvent ensemble, on fête ensemble, on célèbre ensemble. Et je crois que le rôle aussi des politiques, mais aussi des associations, c'est de se dire la vérité. On peut exercer son cul sans aucun problème, mais quand on est dans un pays, comme disait mon père, quand tu arrives quelque part, tu trouves des gens en train de danser sur un pied, tu danses sur un pied. Ça veut dire que chacun peut exercer son culte dans le respect des droits de la République. C'est comme ça, des lois de la République, c'est comme ça.
C'est
si on l'accepte,
phrase,
on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, tant pis. Mais la règle, elle est comme ça.
La phrase de votre papa, vous pouvez la rappeler?
C'est lorsqu'on arrive dans un pays, on trouve les gens en train de danser sur un pied, on fait comme eux, on danse sur un pied.
Vraiment...
Voilà,
ouais,
donc on adopte, on respecte les règles locales. Effectivement, il y a un problème d'entrisme dans ce pays, ça tout le monde le sait. Et il faut effectivement que l'État soit plus fort, qu'il soit plus fort. Notamment, je sais que nos services sont très forts pour détecter de potentiels attentats, ils sont très forts sur ça. Mais je trouve que notamment au niveau local, c'est très compliqué. Parce qu'on a aussi les maires qui parfois sont très opportunistes, qui laissent faire certaines choses parce qu'ils ont un but électoral. Donc effectivement, si on veut continuer à vivre ensemble, il va falloir être fort, fort dans nos valeurs et être capable de dire aux gens, bah, écoutez, chez nous, les règles, c'est celles-là. Moi, je suis une musulmane, je n'ai jamais eu aucun problème pour exercer ma religion en France. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et je n'ai pas de problème avec mon voisin qui est juif, qui est catholique. Au contraire, il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que nous sommes tous des frères d'humanité. Ça, c'est sûr. Et si on part avec ce postulat-là, on peut être capable de vivre ensemble en se respectant les uns les autres dans nos cultures religieuses, mais en respectant aussi ce qu'il y a au-dessus de nous et qui gère les rapports entre les humains, en tout cas sur le territoire français, c'est la loi. Voilà. Donc si on est capable de faire ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Normalement. Il nous reste à peine 30 secondes. Si vous aviez un message, j'avais beaucoup de questions à vous poser, ça passe très vite.
Mais je suis très bavarde aussi, je suis jamais passionnée par les sujets, avec grand plaisir.
Un message lucide et d'espoir aux auditeurs donc, de Radio Courtoisie qui aspirent à une France fière, souveraine et qui assume son identité. Et puis, si vous le voulez, pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot pour Liana?
Oui, je crois qu'il faut être fier du drapeau. Il faut être fier de nos valeurs, il faut être fier de notre histoire. On n'a pas à rougir. Et dans l'histoire, il s'est passé des choses qui ne sont pas forcément jolies. Je pense notamment à la traite négrière. Mais est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, à des gens d'aujourd'hui, ce qui s'est passé hier? On ne peut pas leur reprocher. On a un devoir de mémoire, il ne faut pas l'oublier, pour ne pas que ça se reproduise. Mais je crois qu'il faut être fier de ce qu'on est, fier de nos valeurs, les porter haut et fort, les défendre quoi qu'il arrive. Ça, il faut le faire. Et pour la famille de Liana, c'est terrible, c'est un drame, c'est un vrai drame. Malheureusement, on en a eu d'autres, on en a eu avant, on en aura certainement d'autres.
Bien sûr.
Si on a autant de dysfonctionnements dans notre justice, parce qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la justice, à la police aussi, ce monsieur, normalement, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on redit ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Je crois qu'à un moment, il va falloir prendre nos responsabilités et protéger nos enfants.
Eh bien, écoutez, Mazi Saïdi, on arrive au terme de cette émission. J'espère vraiment que vous reviendrez. Hein.
C'est avec grand plaisir, si vous m'invitez, je reviendrai.
Oui, oui, je vous réinviterai avec grand plaisir. Donc, merci pour votre franchise, votre lucidité et ce courage rare de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, clairement. Hein. Vous nous avez rappelé aujourd'hui qu'être française venue d'ailleurs ne signifie pas... Il ne signifie ni renier ses racines, n'est-ce pas, ni trahir la France. Non. Au contraire, votre double culture vous donne cette clairvoyance précieuse, celle qui refuse l'angélisme et la repentance, tout en aimant, profondément ce pays. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce printemps 2026 où la France semble parfois vaciller, le combat de Mahdi Saïdi nous montre qu'une intégration réussie est possible, mais qu'elle exige fermeté, assimilation et fierté retrouvée. Alors face aux critiques, aux pressions et au silence coupable, ce qui motive Mahdi Saïdi, c'est cet amour viscéral, je crois qu'on l'a bien compris, pour une France souveraine, fière de son histoire et de sa culture et de ses valeurs. Encore merci.
Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir.
Et puis j'espère à très vite, vraiment.
À très bientôt, avec grand plaisir. Merci
beaucoup. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.